Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. Dans l'Ukraine en guerre, l'abandon du russe, très largement parlé dans la population, est un moyen de résister, de faire face à l'agresseur. En solidarité et parce qu'ils se sentent également menacés par le régime de Moscou, d'autres pays de la région rejettent cette langue véhiculaire. Mais doit-on effacer la culture russe et la langue de Pouchkine à cause de Vladimir Poutine ? La question est posée en Lettonie, par exemple. Le pays a adopté une série de mesures restrictives à l'égard de sa communauté russe, allant même jusqu'à expulser les citoyens qui échoueraient à un test de letton. Depuis janvier, plus de 1000 personnes qui vivaient là avant l'implosion de l'URSS ont été sommées de quitter le pays. Et le gouvernement souhaite supprimer progressivement l'enseignement en langue russe, alors que le pays était jusqu'à présent bilingue. À Riga, le reportage de Robin Dussen.
Dans cette école de langue du centre-ville de Riga, une quinzaine de lycéens italiens viennent perfectionner leur niveau de russe. Au bord de la mer Baltique, et notamment en Lettonie, le russe a gardé une place centrale. Il est toujours la langue maternelle d'un tiers de la population. Selon le Bureau central des statistiques de Lettonie, plus d'un habitant de la capitale sur deux est russophone. Un chiffre qui grimpe même à 80% à Daugavpils, la deuxième ville du pays. Parmi ses locuteurs, des Russes, mais aussi des ressortissants des anciennes républiques soviétiques ou plus récemment des réfugiés ukrainiens. Yolanta a grandi dans une famille mixte et enseigne la langue de Pouchkine dans cet institut privé.
À la maison, on parlait russe avec ma famille. Même si mon père était letton, ma grand-mère aussi était lettonne. Mais j'ai fait ma scolarité à l'école russe.
Alors forcément, la mère de famille voit d'un mauvais œil la décision du gouvernement d'interdire totalement l'enseignement en russe d'ici 2025 dans toutes les écoles publiques du pays.
Les enfants doivent recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, pas seulement dans la deuxième langue. Bien sûr, il faut apprendre à bien parler le letton. Je pense que tous les élèves en sont capables. Mais c'est important de maîtriser le russe pendant cette période à l'école.
À Riga, le russe est totalement absent de l'espace public. Les devantures des magasins sont par exemple exclusivement écrites en letton. Même les restaurants affichent plus volontiers leur menu en anglais qu'en russe, de quoi surprendre les touristes, alors qu'il suffit de tendre l'oreille pour entendre une conversation en russe. Le russe a en fait un statut de langue véhiculaire. En 2012, les Lettons ont largement rejeté le référendum constitutionnel qui proposait de faire du russe la seconde langue du pays. Le letton s'est donc renforcé, ce qui pose parfois des problèmes d'intégration, raconte Mikhail.
J'ai des difficultés à trouver un travail, car il faut parler letton. Dans mon job actuel, c'est flexible, je peux parler anglais. Mais c'est comme ça, c'est à moi de m'adapter. C'est vrai que c'est bizarre, c'est compliqué, parce que même si tu es né ici, tu as parfois le sentiment de ne pas être à 100% le bienvenu.
En 2 ans de guerre, la Lettonie est devenue un bastion du soutien à l'Ukraine. En ville, les drapeaux bleus et jaunes s'affichent partout, dans le bus, sur la façade des bâtiments officiels et même sur les panneaux d'affichage publicitaire. Le gouvernement pro-européen mène en fait une politique globale de dérussification du pays. En novembre 2022 déjà, le président lui-même, Egils Levits, encourageait les Lettons de l'étranger à venir soutenir leur pays.
Clairement, la Lettonie a besoin de personnes intelligentes avec une façon de penser occidentale. La Lettonie ne peut exceller dans l'éducation, économiquement et dans d'autres domaines sans votre aide pour faire changer les choses.
Pour l'exécutif, il s'agit là de faire reculer l'influence russe qui passe aussi par la langue, quitte à aller vite, trop vite, selon Yulia.
La politique d'intégration et le fait d'avoir un système scolaire uniquement en letton auraient dû démarrer bien plus tôt. Il aurait fallu anticiper. Tout a débuté trop vite. Personne n'était prêt, ni les professeurs, ni les éditeurs de livres, et sûrement pas les parents.
Parmi les jeunes russophones de Lettonie, ils sont beaucoup à avoir choisi le passeport letton, à la différence de leurs parents et surtout de leurs grands-parents. car ici la double nationalité est interdite avec la Russie. Née après l'ère soviétique dans la jeune Lettonie indépendante et européenne, cette génération rejette l'amalgame fait entre langue et influence.
La langue russe ne doit pas être assimilée à la politique. Le russe a une riche tradition, une culture, et c'est une langue que l'on peut parler dans beaucoup de pays. Vraiment, ça n'a rien de politique. La langue russe ne disparaîtra pas, et dès que le conflit sera terminé, tous ceux qui ont des doutes comprendront non seulement que la langue est importante, mais aussi magnifique.
Si l'argent aide un peu au bonheur, l'appât du gain, lui, peut faire le malheur de certains. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, on va s'intéresser à l'un des revers de la médaille du tourisme, son impact sur le logement. Dans la capitale française, des affaires de locataires soudainement congédiés se multiplient. Ils sont parfois victimes de propriétaires avides de louer leur appartement à prix d'or sur les plateformes de type Airbnb. Le phénomène est avéré. Une proposition de loi a même été déposée par l'opposition socialiste au Parlement pour mieux encadrer la fin des baux abusifs. En attendant, les locataires se retrouvent souvent démunis, comme on l'entend dans ce reportage à Paris de Laura Taouchanoff.
En 2022, Sybille s'installe avec une amie dans un appartement meublé à Saint-Denis. Cette étudiante en sociologie est ravie d'avoir enfin un peu de stabilité après avoir beaucoup changé d'adresse. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu avec le propriétaire.
En 2023, il nous dit qu'on doit re-signer un bail de 9 mois, un nouveau bail étudiant, alors qu'on lui a bien dit que ma coloc n'était plus étudiante. On a essayé de négocier pour un bail d'un an. Il ne voulait pas. Comme ça, je suis sûre que vous payez votre loyer, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que les 9 mois arrivaient pile au JO. Je commence à m'énerver, je l'appelle. Je lui explique qu'il nous met dans une situation qui n'est pas normale. Et je lui dis, en fait, tu es en train de nous dire que tu nous mets dehors pour les JO. Et donc, il me dit non, pas du tout. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant, blablabla. C'est ça ou vous partez quoi.
En faisant quelques recherches, les deux amis s'aperçoivent que leur situation est illégale. On ne peut pas signer un bail étudiant si l'une des colocataires est salariée, et encore moins en enchaîner plusieurs. Elles décident donc de partir.
Si on n'avait pas réussi à trouver un appart dans les temps, bah juste on se serait trouvé à la rue, quoi. Donc vraiment, ça, j'ai halluciné. Il a vu le filon, il s'est dit « je vais me faire de la thune ». Si t'as des gens qui payent, tu les fous pas dehors.
Est-ce qu'on peut vérifier sur Airbnb oui. Si l'appartement est dessus ?
Alors, hop... Je l'avais trouvé sur la carte. Il est là. Il a mis des rideaux. Il s'est fait plaisir. On voit qu'il a mis quelques assiettes et quelques verres, chose qu'il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas de micro-ondes non plus.
En fait, tout ce que vous aviez demandé pendant votre location, il l'a mis pour le Airbnb.
Pour le Airbnb. Franchement, ça m'est ultra en colère. Juste, je trouve ça affreux.
Et est-ce qu'on peut regarder le prix à combien il l'a mis en location sur la période des JO ?
Ouais. 25 juillet, tac, tac, tac. 490 € par nuit. Oh, je suis outrée. Les personnes qui vont venir dans mon ancien appartement pendant les JO paieront pour une nuit un tout petit peu moins de ce que moi je payais pour un mois. Je trouve ça fou de foutre des gens dehors juste pour de la thune pendant 2 semaines.
Des cas comme celui-là, il y en a de plus en plus dans la capitale à l'approche des Jeux. Le problème, c'est que la plupart des locataires ne connaissent pas leurs droits. C'est le rôle des permanences de l'ADIL 75, l'agence départementale d'information sur le logement. Ce jour-là, la juriste Sophie Morvan est d'astreinte.
En fait, elle a besoin de se faire rassurer. La personne, là, en l'occurrence, que j'aurai, il est juste dit qu'il y a une reprise au bénéfice de la fille de la propriétaire, sans qu'il soit précisé pourquoi. Or, elle vit en Outre-mer. Donc venir à Paris, est-ce que c'est pour les études, auquel cas il fallait le mettre ? Est-ce que c'est parce qu'elle se marie, elle s'installe avec son conjoint ? Enfin, vous voyez, il faut vraiment aller au-delà. Maintenant, la loi est plus exigeante, justement, pour éviter la fraude. En plus, la personne en question, le bénéficiaire serait mineur. Donc, a priori, le congé n'est pas valable, quoi. Alors... Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour, je suis la juriste de la DIL. Alors, d'accord. Vous aviez reçu un congé...
Il n'y a pas de motif. Je ne peux pas vraiment avoir le preuve de qu'elle est mineure, mais je le sais pour des conversations que j'ai eues avec des autres propriétaires du bâtiment.
Mm-hmm. On peut aussi considérer que le congé n'est pas valable. Je ne le conteste pas, mais je ne pars pas. Et donc, ce sera au tribunal de trancher lorsque le propriétaire voudra me mettre dehors en fournissant le congé. Et le tribunal tranchera si oui ou non ce congé est valable ou pas.
Oui, mais bon, moi, j'habite dans un état d'angoisse.
Ben, j'ai bien compris. Mais si vraiment ça vous stresse à un point tel, je pense qu'il vaut mieux quand même s'offrir les services d'un avocat. Comme ça, vous n'allez même pas à l'audience. C'est lui qui y va pour vous. Vous n'avez aucun contact avec votre propriétaire. Si ça vous rassure, il vaut mieux fonctionner comme ça.
D'accord. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Très bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Merci.
Des appels là, comme celui-là, vous en avez beaucoup ?
Exactement. Depuis septembre, 28% des consultations que nous avons dispensées nous ont permis de constater qu'il y avait une irrégularité. Alors, on ne pourra prouver la fraude qu'une fois le locataire parti. C'est-à-dire que si c'est un congé vente et qu'au final le logement n'est pas vendu, il est clair que la fraude sera avérée. De manière préventive, c'est difficile, tant que le locataire n'a pas quitté les lieux et qu'en effet la location meublée touristique n'est pas avérée.
Pour les propriétaires, l'amende est peu dissuasive, 6 000 euros, bien en dessous de ce qu'ils pourraient gagner. Ils savent aussi qu'ils pourront retrouver un locataire en un claquement de doigts, vu la pénurie d'annonces. Selon Jean-François Casteras, négociateur immobilier pour l'agence Maurice, à Clichy, en banlieue parisienne, c'est en somme le pire moment pour être congédié.
On a énormément de propriétaires qui ont fait un choix de retirer leurs biens justement de location longue durée. Et on va tirer un maximum d'opportunités sur le Airbnb, avec quand même des prix assez exorbitants. Et au quotidien, on a des gens qui passent le seuil de la porte en nous demandant, en nous sollicitant. Vraiment, ils sont complètement démunis. Ça fait toujours mal au cœur de se dire, ces personnes, comment ça va se passer, où est-ce qu'elles ont, quelle situation elles vont être dans un mois, deux mois, trois mois. Mais je pense à la rentrée, là où ça me fait vraiment mal au cœur, c'est pour tous ces étudiants.
Face aux inquiétudes remontées par l'ADIL, le groupe communiste au Sénat a déposé un projet de loi pour éviter ces expulsions abusives pendant la période des Jeux Olympiques, une sorte de trêve hivernale prolongée.
Moi, dans la maison-ville, dans la chambre-ville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini.
Depuis l'émergence des plateformes de location de courte durée, les pays membres de l'Union européenne, surtout les pays les plus visités, ont dû affronter des perturbations de leur marché du logement, au point que l'Union européenne s'est emparée du sujet. Bonjour Léonard Vincent.
Bonjour Juliette.
La Commission a récemment proposé une législation commune.
Oui Juliette, le Parlement et le Conseil européen sont finalement parvenus à s'entendre sur le sujet. Un accord a été conclu en novembre et ratifié en février par les députés européens. Alors on connaît les conséquences néfastes des loueurs de courte durée dans les villes européennes, la raréfaction des logements disponibles, donc la hausse des loyers pour les habitants à l'année, la désertification des centres-villes hors des périodes touristiques, etc. Alors qu'est-ce que contient cet accord ? Eh bien, trois règles générales pour les plateformes de location, notamment les quatre sociétés qui écrasent le marché de la courte durée, Airbnb, Booking, TripAdvisor et Expedia. Premièrement, l'obligation pour les hôtes qui souhaitent louer leur appartement de se faire immatriculer auprès des autorités. Deuxièmement, cet accord édicte des règles sanitaires et de sécurité communes pour les logements loués. Et troisièmement, il met en place une base de données unique pour les logements, de manière à pouvoir mieux réguler la répartition des logements disponibles, à mieux en équilibrer leur nombre dans les quartiers où le marché de la location est sous tension, comme on dit.
Alors, ce sont là des mesures à minima en Europe, mais chaque pays peut lui aussi légiférer à son niveau.
Oui, il existe déjà deux niveaux de régulation. Le niveau national d'abord, en Norvège. La location dans les zones résidentielles requiert par exemple un accord des autorités au-delà de 30 nuits. En Islande, c'est 90 nuits par an, avec 30 jours consécutifs maximum et un revenu maximum pour les propriétaires. C'est 90 nuits maximum pour certains quartiers en Irlande, ainsi qu'en Grèce, où il existe également un revenu maximum et où les propriétaires ne peuvent louer que 2 logements et pas plus. Et en France, enfin, où on ne peut pas louer plus de 120 jours par an.
Et les villes touristiques, en premier lieu Paris, Barcelone, Lisbonne et Rome, peuvent aussi prendre leurs propres mesures.
Oui, c'est l'autre niveau de régulation, donc municipal, et ces villes ne s'en privent pas. En plus du plafond de 120 jours, l'enregistrement en mairie est parfois obligatoire en France. À Londres, au Royaume-Uni, c'est 90 jours et pas plus. Les restrictions sont différentes en Allemagne, à Munich et à Berlin. À Madrid, les conditions de location sont strictes. Il faut notamment avoir une entrée indépendante du reste de l'immeuble. En Autriche, les locations au-delà de 90 jours sont interdites habitent à Vienne, dans certains quartiers, et à partir de juillet prochain, ce sera le cas dans toute la ville. Et enfin, en Italie, le gouvernement planche actuellement sur une loi qui imposerait une durée de séjour minimale de 2 nuits dans les 14 principales villes du pays.
Merci Léonard Vincent pour toutes ces précisions.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating. Music. Let me know when you're ready.
That's a good start. Et maintenant, musique. Il est temps de retrouver la chronique de Vincent Théval, comme toutes les semaines. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un métissage nord-européen.
La compositrice et multi-instrumentiste et écossaise Clarissa Connelly vit à Copenhague, au Danemark, où elle s'intéresse aux mythologies nordiques et aux musiques scandinaves. Pour concevoir son premier album en 2021, elle avait ainsi arpenté la Scandinavie à la recherche des mélodies liées aux sites pré-chrétiens qu'elle avait incorporées à un travail sonore assez expérimental, salué à l'époque par le prestigieux Nordic Music Prize. Pour son nouvel album World of Work, Clarissa Connelly privilégie les sonorités acoustiques et les atmosphères oniriques, associant folklore ancien, poèmes et mythes celtiques au fil de chansons amples et émouvantes.
Dans Accent d'Europe, un titre de Clarissa Connelly sélectionné pour vous par Vincent Théval. À la réalisation, David Brockway. Vous pouvez retrouver le podcast d'Accent d'Europe et toute l'actualité européenne sur RFI.fr et sur l'appli Pure Radio. Vous pouvez aussi nous écrire accent.europe@rfi.fr. À bientôt. Summer.